Pas d'affolement. Nous voilà.
Entre-deux-mers dans l'émission Pas d'affolement, nous voilà sur 98.4, 70e émission. Notre invitée est Marina Furlan, présidente de l'association Amaya.
En présence de Valérie, Philippe, Ossine, Nathalie, Sylvie, Francis à la technique et l'association Arc-en-Ciel qui vient observer notre émission. Et moi-même, Jean-Louis.
On participait à l'émission Josiane, Pierre, Laurent, Joseph, Guilain, Azedine, Michael, Sylviane, Brigitte, Béatrice et Christelle. La ferme de Mathurin, c'était pour vous présenter notre invitée, qui est la présidente de l'association Amaya, Marina Furlan. Marina, pouvez-vous nous expliquer ce que veut dire Amaya ?
Oui, bonjour. Alors, Amaya, ça veut dire Association pour la médiation et l'animation intégrant l'animal.
Pouvez-vous nous parler de votre association Amaya ? Quel est votre statut au sein de l'association ?
Alors, c'est une association que j'ai fondée en 2015, donc j'en suis actuellement présidente. C'est une association qui intervient auprès de tous les publics avec ses animaux pour faire ce qu'on appelle de la médiation par l'animal. On entend aussi souvent le terme de zoothérapie.
Pouvez-vous nous expliquer votre travail ?
Alors, notre travail consiste en mettre en relation des êtres humains qui ont des besoins spécifiques, identifiés, avec des animaux qui vont être spécifiquement sélectionnés, spécifiquement éduqués pour être mis en contact. Notre objectif, ça va être de retirer des interactions positives de cette mise en relation.
Et alors, à quel âge vous avez commencé votre métier ?
Alors, quand j'ai commencé, je devais avoir 23 ans. J'ai commencé assez jeune, mais voilà, c'était ma passion depuis longtemps.
D'ailleurs, comment vous est venue cette passion ?
En fait, j'ai grandi sur la ferme où sont installés les locaux de l'association. Et on a toujours eu des animaux. Ma mère a toujours eu plein d'animaux, que ce soit pour le plaisir ou pour le travail, puisqu'elle travaillait avec les chevaux. Et puis moi, en grandissant dans ce milieu, j'ai eu envie de développer une activité aussi en pouvant mettre en lien les humains qui en ont besoin avec des animaux et en élargissant à tous les animaux de la ferme.
Quels sont les animaux avec lesquels vous travaillez ? L'approche est-elle différente en fonction des animaux ?
Alors, on travaille avec une grande diversité d'espèces. De mémoire, je crois qu'on travaille avec 15 espèces différentes, quelque chose comme ça. Donc, on va travailler avec des chiens, des chats, des lapins, des cochons d'Inde, mais aussi des plus gros animaux comme les vaches, les chevaux, les ânes, ou entre deux, les chèvres et les moutons. Tous ces animaux, ils sont vraiment habitués à faire ça, et c'est des animaux qui prennent aussi du plaisir dans ces interactions-là.
Alors, il y a des critères pour choisir un animal pour se travailler ?
Oui. En fait, le critère, ça va être qu'il puisse y prendre du plaisir, comme je disais. Donc, c'est un animal qui ne va pas avoir peur de l'humain et au contraire, qui va avoir envie de venir à sa rencontre, qui va avoir la curiosité de interagir avec l'être humain.
Un animal heureux, quoi.
Pardon ?
Un animal heureux.
Ah oui, il faut qu'il soit bien dans ses pattes parce que pour apporter du bien-être aux gens, il faut déjà que lui soit dans une situation de bien-être.
Tout à fait.
Quels sont les animaux les plus faciles ou les plus difficiles que vous ayez eus ?
Alors, c'est une question pas évidente. Ça dépend un petit peu de...
Les plus apprivoisés.
Depuis quels critères ? Alors, quand c'est pour se déplacer dans les structures, puisqu'on se déplace aussi dans les structures, peut-être que le plus difficile, je dirais que c'est le chat, qui est un animal qui peut être moins à l'aise si on le sort de chez lui. Donc, il va falloir faire un travail spécifique pour pouvoir faire ça. Quand on est à la ferme, je dirais peut-être la chèvre, parce qu'elle est très spontanée et elle ne va pas demander l'autorisation de vous sauter sur les genoux. Elle va avoir envie de venir manger ce que vous avez dans les mains, si vous avez quelque chose. Elle va vous fouiller les poches. Elle ne va pas forcément demander l'autorisation. Donc il faut un travail d'éducation vraiment spécifique pour qu'elle respecte l'espace de chacun.
C'est vrai que Brassens disait « les chats n'ont pas de maître ».
C'est vrai, ce sont des animaux indépendants et on vit chez nos chats.
Voilà, c'est eux les maîtres.
Maintenant, on va changer de... sujet avec Isabelle Bessia, que j'ai interviewée avec Oussine, sur l'art. Bonjour Isabelle Bessia, vous êtes docteur en histoire de l'art au musée de Bordeaux.
Oui, tout à fait, je suis chargée de la médiation institutionnelle au musée des Beaux-Arts de Bordeaux et commissaire de l'exposition « Contes au pays d'Arcadie ».
Alors que veut dire médiateur et commissaire ?
Alors, médiateur, c'est un poste en fait, qui correspond à l'ancien mot de guide, c'est-à-dire que c'est faire de la médiation, être l'intermédiaire entre les œuvres d'art et le public. Commissaire de l'exposition, c'est-à-dire que j'ai choisi des œuvres dans les réserves du musée et j'ai donc imaginé une exposition en partenariat avec le centre hospitalier de Cadillac.
Comment vous est venue l'idée de l'exposition des contes d'Arcadie ?
Alors, l'exposition, elle s'intitule « Contes au pays d'Arcadie ». Elle m'est venue par la présence de nombreux tableaux dans la collection qui représentent des paysages idylliques arcadiens, et notamment une copie d'un célèbre tableau de Nicolas Poussin qui s'intitule « Les bergers d'Arcadie ». Et cette exposition donc, me permettait de sortir des œuvres des réserves et de les faire découvrir au public. Et nous avons donc travaillé dans le cadre du partenariat entre le centre hospitalier et le musée des Beaux-Arts avec les patients et les soignantes de l'hôpital de jour de Cadillac, mais aussi le CATTP de Villeneuve-d'Ornon. Les patients et les soignants donc, ont été inspirés par des tableaux et des œuvres graphiques sur le thème de l'Arcadie. Et c'est une exposition donc, originale qui en découle puisqu'elle est à la fois à écouter et à voir. Les contes qui ont été inventés lors des ateliers d'écriture sont à écouter grâce à un audio guide dans l'exposition devant les œuvres.
Combien y a-t-il des œuvres dans votre exposition ?
Alors, il y a plus d'une quarantaine d'œuvres qui sont principalement sorties des réserves. Un seul tableau était présenté dans la collection permanente. Donc, la salle d'actualité où se déroule l'exposition permet justement un accrochage particulier des œuvres graphiques, notamment avec un éclairage spécial particulier, pas plus de 50 lux, mais aussi la présentation d'autres œuvres du musée qu'on ne voit pas tout le temps. Donc, c'est vraiment bien puisque ces 40 tableaux n'étaient pas du tout visibles. Ils étaient dans les réserves et ils peuvent aujourd'hui être découverts par le public.
Vous faites des ateliers hors de musée auprès de qui et pourquoi ?
Alors, les ateliers, en effet, se déroulent hors les murs. Et d'ailleurs, le musée des Beaux-Arts a obtenu le label « Le musée sort de ses murs » en 2019. Donc, pour qui ? Pour des patients du centre hospitalier, donc de l'hôpital de jour. Et pourquoi ? Parce que ça nous permet justement de partager sur l'art. Donc ça, c'est intéressant puisque en venant de Bordeaux à Cadillac, je permets à des personnes de pouvoir découvrir l'histoire de l'art en venant avec des reproductions des chefs-d'œuvre de la collection. Et ensuite, on peut avoir un atelier de pratique artistique en rapport avec les œuvres étudiées. Et là, pour Contes d'un pays d'Arcadie, l'originalité, c'est que nous avons pour la première fois donc organisé des séances d'écriture. Et l'exposition donc résulte de 9 séances d'écriture autour des œuvres choisies sur le thème de l'Arcadie.
Au cours de l'inauguration, vous nous avez parlé de... que les mêmes tableaux avaient été utilisés, mais différemment.
Oui, tout à fait. Alors, c'est l'intérêt, justement, puisque deux ateliers ont travaillé et ont été inspirés par les œuvres. Mais chaque atelier a choisi ses tableaux sur l'ensemble des œuvres. Et ça donne deux contes totalement différents, mais qui sont tout aussi intéressants. Donc, je vous propose de venir les écouter au Musée des Beaux-Arts, hein, puisque c'est vrai que l'écriture de ces contes a été très riche et a donné donc deux histoires très, très intéressantes à écouter.
Est-ce que c'est une première ?
Alors oui, en tout cas au musée, c'est la première fois qu'on propose une exposition à écouter et à voir. Et les retours du public, pour l'instant, sont très positifs. Les gens passent un très bon moment au sein de l'exposition.
Pouvons-nous faire rêver de nos 10 ans ce que l'Arcadie ?
Alors, l'Arcadie, c'est un paysage dans les tableaux souvent merveilleux. Mais au départ, c'est une terre aride et isolée que les écrivains, surtout les poètes de l'Antiquité, vont transformer en une terre spirituelle. Alors l'Arcadie, justement, il y a deux auteurs antiques qui en ont parlé. Théocrite, au 3e siècle avant Jésus-Christ, et Virgile, au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'un dans les idylles, l'autre dans les bucoliques. Et ces auteurs, en fait, ils ont... parler de bergers qui étaient des hommes raffinés, des intellectuels. Et ces bergers, en fait, vont concevoir la vie d'une façon très positive et surtout vont vivre en harmonie avec la nature et les animaux. Et donc l'Arcadie, c'est vraiment un jardin d'Éden. C'est l'idée, en fait, d'un âge d'or auquel on aspire. C'est l'idée d'un paradis perdu, puisque l'homme est heureux dans la nature. La nature est tranquille puisqu'il n'y a pas les guerres, l'ère industrielle. Donc ce thème choisi permet justement de rappeler qu'à différentes époques, l'Arcadie a fait rêver, elle était comme une alternative à la violence ou à la guerre. Et donc à toutes les époques, les peintres, les poètes, les écrivains ont été inspirés par ce sujet qui permettait de rappeler voilà, un idéal qui nous fait rêver.
Quel est le plus emblématique des tableaux de l'exposition ?
Alors le tableau le plus emblématique de l'exposition, c'est la copie du tableau de Nicolas Poussin, Les bergers d'Arcadie, et une copie qui a été exécutée par un artiste qui s'appelle Alcide Giraud, qui reproduit fidèlement le tableau célèbre de Nicolas Poussin, qui représente des bergers, en fait trois hommes et une bergère, qui découvrent un tombeau et qui essaie de déchiffrer une inscription énigmatique qui est en fait « Et in Arcadia ego », qui signifie « Même en Arcadie, j'existe ». Donc elle sous-entend en fait cette inscription que même dans le paysage le plus idyllique, dans le lieu le plus merveilleux, le plus parfait, la mort existe. Et l'exposition rappelle justement avec les références aux auteurs antiques qu'en Arcadie, ce n'est pas un monde de béatitude, hein, qu'il existe aussi des souffrances humaines. Et deux principales, le chagrin d'amour et notamment les contrariétés amoureuses, un amour non partagé, et la mort. Donc dans l'exposition, en fait, avec les bergers d'Arcadie, on rappelle, c'est pas du tout pour nous rendre tristes, mais au contraire qu'il faut élever son âme grâce à la poésie, puisque l'Arcadie, c'est vraiment le monde de bergers qui vont exalter la poésie, la glorifier, qui vont penser qu'on peut apaiser nos souffrances grâce à la poésie, grâce à la musique.
Grâce et donc, aux arts.
Voilà, grâce aux arts.
Qui a participé à la construction de l'exposition avec vous ?
Alors, en fait, cette exposition, elle a été conçue en collaboration avec les patients du centre hospitalier Cadillac, puisque tout départ du conte. Donc, l'exposition, elle a été conçue tout d'abord pour la réflexion par rapport au tableau choisi, mais après, bien sûr, en collaboration avec toute l'équipe du musée, puisqu'il y a la régie, il y a le service de médiation qui a imaginé un carnet pour les enfants. De mon côté, chargée de la médiation institutionnelle, j'ai réalisé un carnet adulte, un livret Falck, mais également j'ai demandé à une personne qui travaille souvent au musée avec moi dans le cadre d'ateliers avec des malvoyants de réaliser la traduction en fait des cartels de l'exposition en braille.
Donc, oui, c'est quoi un cartel ?
Alors un cartel, c'est une petite étiquette qui se trouve à côté du tableau et qui donne des renseignements à la fois sur l'auteur et aussi sur l'œuvre. Donc moi, pour l'exposition, j'ai rédigé 10 cartels qui permettent aux visiteurs de découvrir les tableaux avec un discours histoire de l'art. Voilà. Donc les contes, ça nous fait rêver. Les cartels sont là pour nous expliquer les tableaux.
Et comment vous est venue l'idée du choix de l'Arcadie ?
Alors vraiment parce que c'est un thème qui est intéressant parce que déjà c'est un thème qui dans la période que nous vivons nous donne beaucoup d'espoir puisque c'est vrai qu'avec le Covid, le réchauffement climatique, là on vit plutôt une période qui est un peu triste. L'Arcadie c'est un monde idéal donc c'est vrai que c'est bon d'y penser et on voit qu'à différentes époques justement ça a été considéré comme quelque chose qui rappelait tout d'abord que il existe une petite conscience inquiète d'une trace humaine qui peut être négative pour l'environnement. Donc l'Arcadie, elle nous rappelle qu'il faut préserver la nature, les animaux et que l'homme doit vraiment essayer de vivre en paix et en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Donc c'est plutôt positif.
Quel message avez-vous adressé à nos auditeurs pour qu'ils aillent vous voir et qu'ils apprécient l'Arcadie ?
Alors, qu'ils consultent le site du Musée des Beaux-Arts, puisqu'ils pourront voir toute la programmation sur l'agenda. Et il y a notamment toute une programmation culturelle avec de la danse, de la musique, des slameurs, un procès fictif, des regards croisés. Enfin, il y a énormément de choses, des ateliers pour les enfants, des cours de dessin, des cours d'aquarelle, tout cela autour de l'Arcadie. Donc la programmation est riche et elle s'étend jusqu'au mois de juin. Donc sur le Musée des Beaux-Arts, sur le site, on peut aussi consulter les dates des visites commentées de l'exposition.
Avec Isabelle Bessia.
Voilà, tout à fait.
Je chapeaute tout.
Oh, merci.
Oh, je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.
Et on espère un peu d'Arcadie dans nos cœurs à tous.
Voilà, merci beaucoup et à bientôt au musée.
Merci.
Josiane a souhaité faire un clin d'œil à Francis qui nous demande de ne plus présenter en 10 ans et maintenant. On lui fait écouter le titre de Gilbert Bécaud et maintenant.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières au matin. Je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Très belle chanson, merci Gilbert. Alors nous sommes de retour au studio de Sauveterre Radio Entre Deux Mers pour l'émission Pas d'affolement, nous voilà, sur 90.4. Et aujourd'hui, notre invitée est Marina Furlan, présidente de l'association Amaya. Alors, Marina, est-ce que ça vous demande beaucoup de temps pour entretien des animaux ?
Oui, comme il y a beaucoup d'animaux, ça représente plusieurs heures par jour.
Ah, je m'en doute.
Puisqu'il faut déjà les nourrir, c'est une première chose, mais il faut aussi entretenir les parcs, les enclos, nettoyer, arranger, réparer des fois les clôtures. Et puis, il y a tout un travail aussi pour les préparer à leur métier, puisque ce sont des animaux qui ont un métier.
Est-ce que vous êtes seule pour vous occuper de tous ces animaux ?
Heureusement, non, je ne suis pas seule. J'interviens donc, moi, sur site, en médiation, mais aussi dans le soin des animaux. Et pour ça, je suis entourée d'une soigneuse qui vient tous les jours m'aider à s'en occuper. Et puis, d'une intervenante qui est là aussi sur le quotidien, notamment pour toute la partie nourrissage et soins.
Y a-t-il un dressage particulier ? Est-ce que les animaux sont habitués à l'homme ?
Effectivement, les animaux sont habitués à l'homme. Hein. C'est un prérequis indispensable pour pouvoir faire notre métier. Pour ça, on fait ce qu'on appelle des séances d'entraînement. C'est-à-dire qu'on va les mettre en situation chez nous, à la ferme, pour les préparer à ce qu'ils vont vivre quand on va les présenter à des personnes qu'ils ne connaissent pas encore. Donc on va recréer les conditions d'une séance. On va tout mettre en place sur une table, les tapis. Voilà, le même schéma qu'en séance pour les préparer, les habituer au bruit, aux gestes et à tout ce qui va pouvoir se passer. Ça nous garantit d'avoir les animaux bien dans leurs pattes, comme on disait tout à l'heure.
Oui. Alors, est-ce que votre inspiration, c'est une question un peu, vient du cirque ?
Alors non, elle ne vient pas du cirque, puisque nous, on a vraiment ce côté où on n'est pas dans le spectacle, on est vraiment dans un travail où on va fixer des objectifs qu'on va essayer de travailler pour le participant en lien avec l'animal. Donc on n'a pas ce côté démonstration, on a vraiment ce côté prendre soin, bien-être, mieux-être.
Est-ce que vous conduisez des calèches ?
Oui.
Alors, pour aller où ?
Alors, on a une partie attelage, c'est vrai qu'on travaille avec des chevaux de trait, donc c'est très gros chevaux qui sont utilisés pour plein de choses différentes. Nous, on travaille avec eux sur les ateliers calèches, où on va pouvoir faire de la balade, tout simplement, mais aussi faire découvrir à des personnes, des jeunes et des moins jeunes, ben, ce que ça peut être de guider, de mener un attelage avec un cheval très puissant. On va apprendre à communiquer autrement que par la force, puisque là, il faut travailler ensemble pour réussir à faire, par exemple, un parcours de maniabilité.
Jean-Louis, avez-vous une dernière question pour Marina ?
Oui. Est-ce plus difficile de travailler avec un public enfant ou un public adulte ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse générale à donner à cette question. Ça va vraiment dépendre de l'intervenant, c'est-à-dire de la personne qui va proposer les séances, puisqu'on va avoir un certain attrait pour des publics. Il y a des gens qui seront plus à l'aise avec des enfants, d'autres plus avec les adultes, d'autres qui vont être bien avec tout le monde. Donc là, chaque intervenant va avoir ce qu'on appelle un public cible, des personnes qui vont accompagner avec des besoins spécifiques. Les enfants n'auront pas forcément les mêmes besoins que les adultes, et donc chaque intervenant va pouvoir adapter sa pratique au public qu'il a ciblé et auprès duquel il a aussi plaisir à intervenir.
Combien d'intervenants avez-vous en plus de vous ?
Alors, en plus de moi, on doit être 4 intervenants sur le terrain, voilà, qui interviennent, soit dans une spécialité en lien avec un animal. On a une intervenante qui travaille avec les chevaux, par exemple, qui est monitrice d'équitation et qui peut donc permettre aux personnes de monter à cheval quand ça a du sens. On a des personnes qui vont être spécialisées dans l'accompagnement individuel, donc quand ça va être des enfants, par exemple, ou des adultes qui ont besoin d'un temps vraiment juste pour eux. Et puis, on va avoir des personnes qui seront plutôt sur le récréatif, sur l'animation, donc aller à la rencontre des personnes qui ne peuvent pas forcément venir à la ferme pour leur faire passer un bon moment avec les animaux. Je pense notamment aux EHPAD.
Aussi.
Maintenant, j'ai vos présentations de la recette des délits. Madeleine.
Chers auditeurs, bonjour. Ce mois-ci, je vous présente la recette des madeleines. Pour 30 madeleines, il vous faut 250 g de farine, 150 g de beurre, un paquet de levure, 10 cl de lait, 2 œufs, 125 g de beurre fondu, le zeste d'un citron. Faire fondre le beurre à feu doux, mélanger les œufs et le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Ajoutez le lait, ajoutez la farine et la levure, puis le beurre. Beurrez les moules à madeleine et versez la préparation. Enfournez à 240 degrés. Baissez le feu au bout de 5 minutes de sang. Laissez encore 10 minutes. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci.
Eh oui, c'est délicieux, délicieux tout ça. Mmh. Et c'est avec plaisir de ce fait qu'on se retrouve Guylain, qui cette fois va nous surprendre encore.
Guylain, 5 phrases pour l'espoir. Ne désespère jamais, même dans les afflictions les plus sombres, car des nuages noirs sortent des eaux claires et fécondes. Chaumière où l'on rit vaut mieux que palais où l'on pleure. À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes. Les grandes âmes n'ont que souhait. C'est le travail et la persévérance qui te conduiront à devenir ce que tu désires être. Ma chronique est terminée, maintenant on passe à la fable. Aujourd'hui, ce sera la fourmi et la colombe. Un jour de grosse chaleur, une fourmi cherchait un point d'eau pour assouvir sa soif. Après une longue marche, elle atteignit une rivière et commença à se désaltérer. Soudain, un vif courant d'air fit tomber l'insecte dans la rivière. La petite fourmi essayait de nager en vain. « À l'aide, je vais me noyer !» criait-elle. Mais sa voix était si faible qu'on pouvait à peine l'entendre. Un bel oiseau, une colombe perchée sur un arbre qui surplombait la rivière, remarqua la petite fourmi qui se débattait dans l'eau. Rapidement, avec son bec, elle détacha une feuille de l'arbre. Puis elle la déposa à côté de la fourmi. « Monte sur cette feuille, je vais t'emmener dans un endroit sûr !» dit la colombe. La fourmi se hissa sur la feuille. Sauvée, la petite fourmi remercia chaleureusement le bel oiseau. Le lendemain, un chasseur vint dans la forêt. Il vit la colombe perchée sur une branche. Le chasseur arma son arme en visant la colombe. La petite fourmi observait cette scène. Aussitôt, elle décida d'agir et d'aider son ami. N'écoutant que son courage, la fourmi grimpa sur le chasseur et le mordit très fort au cou. Le chasseur poussa un cri. Le coup de feu retentit. Mais par chance, la colombe ne fut pas touchée. Attaqué par un adversaire invisible, le chasseur s'enfuit, effrayé. Cette fois, ce fut la colombe qui remercia la petite fourmi. Celle-ci était heureuse d'avoir pu aider ce grand et bel oiseau. La fourmi et la colombe devinrent les meilleurs amis du monde. Et maintenant, info perso. Pas d'affolement, nous voilà. Ma vision de la radio. Guylain. Le fait de participer à l'activité radio m'a permis de pouvoir m'exprimer en public et de sortir de ma réserve. Car à la base, je suis une personne que l'on peut qualifier de timide. Je tire mon chapeau à ceux qui ont plus de difficultés que moi et qui font preuve de persévérance et de fidélité depuis le début. Car c'est grâce à eux, il ne faut pas l'oublier, ils ont été les piliers grâce à qui l'émission Pas d'affolement nous voilà existe encore aujourd'hui. Et ça continuera. Enfin, je l'espère.
Pas d'affolement nous voilà.
Aux chevaux maigres vont les mouches.
Si un homme ne fait que ce qu'on exige de lui, il est un esclave. S'il en fait plus, il est un homme libre.
À vieille mule, frein doré.
On garde une vieille bête pour pouvoir mieux la vendre. Se dit aussi des vieilles femmes qui abusent des produits de toilette.
bon sang ne peut mentir.
Quand on est d'une bonne famille, on ne dégénère pas, par extension. Chacun est le fruit de son héritage, l'enfant de sa famille, de sa lignée.
Ce n'est pas la mer à boire.
C'est-à-dire, ce n'est pas grave.
Avoir des amis à la mode.
Qualifie un parent éloigné, voire un ami.
Gober les mouches.
Se laisser aller, être guidé par la paresse et jouer les fainéants, rester passif.
Il est vêtu comme un oignon.
Ça décrit celui ou celle qui se protège du froid et qui porte plusieurs vêtements superposés et en plusieurs couches. En effet, un oignon se compose de plusieurs couches stratifiées, détachables à la moindre coupure.
Il ne faut pas se fier à qui entend deux messes.
Se dit des gens qui portent plusieurs vêtements, les uns sur les autres.
Jeter de l'huile sur le feu.
Attiser les antagonismes, les querelles. Un antagonisme, c'est un état d'opposition et de deux forces de deux principes. Guilin.
Merci Guilin. Alors moi, je n'ai pas des dictons, je n'ai pas des expressions, j'ai comme d'habitude des poèmes de ma création personnelle. Je vais vous les citer. La première, c'est la voiture. Quand elle démarre, qu'elle est belle la voiture, qui vrombit et rejette son air impur. Instrument de jeunesse, instrument de liberté pour les jeunes, pour les plus anciens de modernité. Et au bord de la route, les plateaux, les platanes qui défilent sur notre route montrent qu'on est sorti de la ville. Parfois, au tournant, on trouve la mort. Et on ne sait si on a raison ou tort de s'en servir. Mais quel progrès! Alors vive la voiture et vive la liberté. Mon deuxième poème, c'est les curés. Certes feignants, mais tellement cultivés, voilà comment on caractérise les curés. On les écoute, voilà, les écouter à la messe où ils nous couvrent de promesses. Ils sont respectés et aimés, et si importants pour nos aînés. On leur donne quelques pièces à la fin de la messe comme espèces. On les aime, ces curés de campagne, ils sont si proches de nous et là-haut, telle une montagne, quand ils prophétient du haut de leur chair. Alors à vous, très saint père, je vous dis merci et continuez.
Restons dans les poèmes avec Pierre, poème de Pierre.
La vie, c'est l'aventure, mais c'est quand même dur de réparer nos erreurs, même si nous nous essayons. Nous voyageons sur un bateau, nous découvrons de nouveaux visages, nous prenons des photos, la laideur est bien faible pour les sages. Serrer la main à un ami, tendre la main au plus petit, nous avons toujours quelque chose dans notre cœur pour nous faire avancer. Les coups de blues passent, nous jouons à pile ou face, pour savoir qui a gagné, le plus de couleurs pour peindre le bonheur et la quiétude. Nous gardons l'éveil dans la nature, qui nous mène à des petits chemins de cailloux, que nous peignons à notre guise. Dans le ciel, les grues sont passées. Printemps déjà là, air de vacances, ramasser des coquillages. Après les galères, retrouver ses amis, dans la tempête, arriver à bon port, quitter la pluie, le froid, le mal. Ne t'en fais pas, nous irons mieux, nous serons joyeux. Et vous, mère, vos yeux bleus dans la clarté du jour ou dans le reflet de la nuit, je les trouve si jolis.
Et maintenant, nous allons écouter un rap fait par Michael, que nous avons déjà entendu, à la tour de l'étage, ça se nomme.
Hold high up, civilité Stallone, Mr. Stallone. Pas ni civilité médiathèque, civilité dans le quartier, dans les cases. De la chambre forte. Mais là au cinéma, je vais au cinéma, ma cabriola, j'ai fait des garages, c'est des incendies, c'est chez moi, si c'était les pompiers. Les cafes, les cafards, c'est des au palace. Intérieur, cité, subjecteur, cité, intérieur ou inventeur, inventeur, porté, concert, cité, les personnes de seul, cité, clientèle ou à l'hôtel. Quand tu dis groupe, rock, cité, mal, pagaille, mal, pagaille, cité, les mal, pagaille. Coupable, cité, dans les descendants, cité, là, chacun son moment, monde, bon alibi. Bon alibi, suspecteur, cité dans les dernières ventes, cité sa mère, pour cité les coupables, pas pour aller les coupables. Portez chacun. Quand tu dis ça, tu dis c'est l'installer les moments nouveaux, le décor, cité roman, je suis pas occupé, mais je sais des ménageurs, cité avec des sept, cité d'histoire. Ah, si t'es maître, une ancienne personne, si t'es, c'était pas le fond de transfert, sans si t'es, quand tu peux là, arrête de parler, je t'achète, si t'es champagne. mon frère, mes frères. Descendre, c'était des moments de là. L'inspiration, c'était les routines. L'opinesse, c'était j'étais pas sorti, mais j'étais pas sorti, mais je suis sorti, je vais être sorti bientôt maquillé. Sur une Sophie Marteau. Histoire quand même d'enlever cette idée. Je suis t'inquiète, frère, t'inquiète, gang. T'as un nouveau décor, mais quand tu t'en as marre, c'est que t'as après toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La femme, partir. C'était, t'embête, le crack, le da, le mec a des billets. Et... quand j'apporte une théâtre, c'était des pleines torts, c'était des journalistes, c'était pour porter des crânes de.
Et oui, vous êtes bien sur Radio Entre Deux Mers, 98.4 FM, la 70e émission, avec comme invitée Marina Furlon, présidente de l'association Amaya. Maintenant, nous allons écouter un petit coup de gueule de Josiane et Pierre au sujet des EHPAD.
Bonjour. Alors Josiane, je crois que vous avez un petit coup de gueule à nous passer pour contre les EHPAD et les hôpitaux en général, et peut-être les hôpitaux psychiatriques.
Aussi.
Voilà.
Oui.
Donc, dans un premier temps, qu'avez-vous à dire sur les EHPAD?
Moi, ce qui me fâche sur les EHPAD, c'est qu'on approche des élections présidentielles et qu'à chaque fois, on nous sort un scandale sur les EHPAD, sur ce qu'on fait de nos personnes âgées, dont je fais partie d'ailleurs. Voilà, ça me met vraiment en colère parce que c'est toujours les mêmes problèmes et ils ne sont jamais résolus, et ça depuis 30 ans. Donc voilà, je suis très en colère.
D'accord.
Il manque du personnel, tout le monde le sait,
oui.
Tout le monde l'a toujours su, les gouvernements de tous bords, et rien n'a été fait. Okay. Donc il manque du personnel en EHPAD, il manque du personnel en hôpitaux, et en hôpital psychiatrique, oui, encore pire, parce que c'est le parent pauvre. Hein. Tout le monde le sait aussi de la médecine. Et je trouve ça honteux. Honteux qu'on serve d'eux à chaque fois qu'il y a une présidentielle qui apparaît. On ne parle que de ça. Voilà. D'accord. C'est honteux. Alors qu'on devrait en parler tous les jours. À chaque fois qu'il y a un problème, le faire sortir. Mais ça ne sort pas. Voilà.
Et pensez-vous que... il y a des modèles dans des pays étrangers qui sont meilleurs?
Non, je n'ai pas vu de modèle. D'abord, on parle souvent de... peut-être en Suède, ils ont une meilleure couverture. Ouais. Ils s'occupent beaucoup plus de leurs personnes âgées. En Afrique, il n'y a pas le problème parce que les Africains gardent leurs personnes âgées.
Ouais.
Ils s'en occupent. En Amérique, n'en parlons pas. Si vous n'avez pas de sous, vous n'avez pas de soins. Donc non, ce n'est pas... voilà, j'ai pas... bon, à part les Africains, eux, qui gardent leurs personnes âgées avec eux et qui s'en occupent.
D'accord.
Il n'y a pas tellement de modèles, en fait.
Donc
pour nous.
L'Afrique, la Suède et les États-Unis.
Non.
Les États-Unis, il ne faut mieux pas
vieillir. Ah non, il ne faut pas vieillir aux États-Unis. Oui. Non, non.
D'accord.
En plus, dès que vous ne travaillez plus, vous avez plus de... vous pouvez plus vous soigner aux États-Unis. Hein. Vous le savez,
oui,
ça.
Oui,
hein,
oui.
Voilà. Donc, non, non, tout ça, c'est une question politique, et puis ça ne changera jamais. Alors, il y a eu la vignette pour les autos.
Oui.
Ça devait servir à nos vieux. Ça n'a jamais servi, ou très peu.
Oui.
Il y a la journée, maintenant, que tous les travailleurs doivent donner pour les personnes âgées.
Est-ce que les cigarettes, c'est compté pour les personnes âgées?
Pensez-vous, non, jamais.
Ah, d'accord.
La taxe cigarette, ça a toujours été pour l'État, comme la taxe... sur l'essence. Les taxes sur l'essence, ça va qu'à l'État.
On pourrait changer quelques systèmes.
Il faudrait changer, oui, pour que nos hôpitaux, nos EHPAD. Je signale aussi que nos personnes âgées payent quand même.
Oui,
jusqu'à 3 000 euros.
Oui, c'est hein, tout à fait.
Et,
oui.
Pour être maltraités et mal soignés, non, c'est pas.
Il y a quelques EHPAD d'exception, mais.
Oui, elles sont très chères.
Oui.
J'ai entendu, justement, que les EHPAD, à 4000 euros, ils avaient droit à 3 biscottes. Moi, j'étais très heureuse pour ces personnes âgées.
Okay.
Et eux aussi, ils étaient très contents.
Bah, oui.
Voilà, ils avaient 3 biscottes.
Merci, Josiane.
Mais je vous en prie, à bientôt.
Merci.
Et maintenant, j'ouvre la page de sport, top 14. Brive-Abati Castres, 28-12. La Rochelle a battu Racing 92-19-0. Montpellier a battu Biarritz 37-22. Pau a gagné contre Perpignan 27-22. Stade Français a perdu contre Stade Bordelais 18-21. Toulon a battu Clermont 32-22. Toulouse a battu Lyon 27-19. Voici le classement. Premier, Bordeaux, Montpellier, plutôt, excusez-moi, Montpellier. Deuxième, Bordeaux. Troisième, Toulouse. Quatrième, La Rochelle. Cinquième, Castres. Sixième, Lyon. Septième, Racing. Huitième, Clermont. Neuvième, Toulon. Dixième, Pau. Onzième, Stade Français. Douzième, Brive. Treizième, Perpignan. Quatorzième, Biarritz.
Merci Ossine. On continue la page sportive avec la chronique sportive de l'année 1973, comme tous les mois. Alors côté actualité, en 1973, l'entrée du Danemark et de l'Irlande dans la CEE, Edgar Faure est élu président de l'Assemblée nationale, enfin le décès de Fernand Reynaud à l'âge de 47 ans. Côté sportif, en boxe, George Foreman devient champion du monde des poids lourds en battant Joe Frazier à Kingston. En cyclisme, l'Espagnol Luis Ocaña remporte le Tour de France. En rugby, le 15 de France bat les All Blacks lors de la tournée européenne. En football, l'Ajax d'Amsterdam remporte pour la troisième fois consécutive la Coupe d'Europe des clubs champions. En tennis, le Roumain Ilina Stas remporte les internationaux de Roland-Garros. Enfin, en sport automobile, Henri Pescarolo et Gérard Larousse gagnent les 24 heures du Mans. Cette année voit la naissance de la patineuse Surya Bonaly. Et maintenant, on passe au sport mécanique avec Jean-Louis.
Le circuit Paul Ricard. En 1970, Paul Ricard crée le circuit du Castellet près de Marseille. En 1971, a lieu le premier Grand Prix de Formule 1. Puis en 1973, a lieu le Grand Prix de France Moto. En 1978, a lieu le premier bol d'or sur le circuit. En 1999, le circuit est racheté et rénové. Le circuit s'améliore et se transforme au fil des années. Mais il est fermé au public. Dernière course est le bol d'or en septembre 1999. En 2006, il obtient l'homologation de la FIFA. Le circuit est reconnu comme un circuit d'exception pour l'entraînement, la communication et la sécurité. En 2009, rouverture du circuit au public. 2011, ouverture d'une école de formation moto et scooter où l'on peut passer le permis moto. Retour des courses FFM en 2012. En 2013, est organisée une course de dragster. En 2014, est organisée des courses de camions. En 2015, le bol d'or course de 24 heures moto d'endurance et de vélos d'endurance de 6 heures ou 24 heures sont organisés. Toujours en 2015, le record de vitesse tombe avec un pilote qui roule à 357 km/h. C'est aussi l'année où l'on peut voir les premières courses de voitures électriques. En 2016, création de l'association ASA, Association Sportive Automobile. En 2017, rénovation de la piste. En 2018, s'y déroule le Grand Prix de France de Formule 1. Et en 2020, c'est le 50e anniversaire du circuit Paul Ricard et la certification de 3 étoiles par la FIFA. J'y suis allé il y a une quarantaine d'années voir un Grand Prix. Petite anecdote, des amis se sont fait voler pendant la nuit leur portefeuille. Ils n'ont retrouvé que les papiers. Après le sport, nous passons la parole à Valérie pour la page culturelle.
Merci Jean-Louis. Et maintenant, nous allons écouter quelques infos culturelles qui, j'espère, vous plairont, qui ont été faites à l'avance. Je vous remercie.
Et maintenant, un peu de culture qui vous permettra de sortir un peu de votre nid. Par exemple, le samedi 2 avril, à Pujols-sur-Siron, l'UTL Art et Découverte propose une sortie Joséphine Baker, une grande dame au Milland et au Cadouin en Dordogne. Ensuite, nous avons à Bazas, le dimanche 3 avril à 17h, les Amis de la Cathédrale proposent le chœur basque Indara au profit de l'Ukraine. À Saint-Macaire, le vendredi 22 avril à 20h30, au Centre culturel des Carmes à Langon, l'association Camin vous invite à fêter ses 20 ans. Le mardi 5 avril, 20h30, une conférence débat dans la salle de François Mauriac du Centre culturel de Langon. Le thème en sera l'autisme. Le vendredi 8 avril, 18h, projection conférence débat au cinéma Vogue de Bazas, rencontre organisée par l'association Lodosens qui milite pour un changement de regard sur ces jeunes riches de leurs particularités. Le vendredi 22 avril, 20h30, au Centre culturel des Carmes, spectacle exceptionnel avec le bal des pompiers en one-man show de Laurent Savard. Le comédien aborde par l'humour le thème de la différence. À Pujols, le dimanche 17 avril, de 9h à 18h, dans le parc du château, de la salle des expositions florales, Jardin sur Siron. À Beautiron, au musée des techniques, le samedi 2 et 3 avril, de 10h à 18h, les journées européennes des métiers des arts. Toujours à Beautiron, le musée des arts techniques, dès le 13 avril, aux heures habituelles, le musée des techniques dresse la table grâce à une magnifique exposition de céramique vaisselle ancienne, voyage du club de l'amitié de Saint-Macaire. Le samedi 23 avril propose une journée d'encharia. À Pujols, par Sur-Siron, le vendredi 1er avril à 14h30, une rencontre littéraire pour tous proposée par Art et Découverte. Toujours à Pujols, sur Siron, le comité des fêtes propose le samedi 2 avril au foyer rural à 19h30 une soirée karaoké. À Toulaine, le dimanche 3 avril à 16h30, en l'église saturnienne à Toulaine, concert de chant choral. À Toulaine, le samedi 9 avril 20h30, en l'église de Toulaine, il y aura le quartuor La Boétique en concert en église de Saint-Saturnien. Sachez que tous les mois, vous pouvez voir des expositions au Carme de Langon et à la mairie de Cadillac. Maintenant, au Cinéma Luxe, pour le mois d'avril, vous avez En même temps, Corps, Nos frères blessés, Les meilleurs et Le Tigre. Et maintenant, un peu...
Comme chaque mois, les chroniques de Pierre et Petit Geste pour la planète.
Et maintenant, un petit geste pour la planète. Je veux lancer un coup de gueule envers les voitures qui écrasent les animaux, biches, chevreuils, sangliers et autres hérissons. Des solutions existent. Tunnels pour animaux, crapauducs, ponts de relais de forêt... Siffler à ultrasons obligatoires sur les voitures, les motos et les camions, réduire la vitesse, etc. Allez, faites un effort. Achetez-vous un sifflet à ultrasons pour votre voiture, votre moto ou votre camion. C'est déjà beaucoup pour les animaux. Et vous gagnerez en sécurité. Ces sifflets sont en plus à un prix abordable. Alors merci pour la planète.
Merci pour la planète.
Et maintenant, avec Pierre, qui vous a dédié un morceau, c'est de The Strangler, Golden Brown.
texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Nous sommes toujours avec Marina Furlon, présidente de l'association AMAI, sur 98.4 Radio Entre-deux-Mers. AMAI, quel type de structure avec lesquelles vous travaillez ?
Alors, nous travaillons avec une grande diversité de structures. Ça peut être des structures de la petite enfance qui accueillent les enfants de 0 à 3 ans. Toutes les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, que ce soit mental, que ce soit physique, polyhandicap. Et puis avec toutes les structures qui travaillent avec les personnes âgées également.
Ce sont les médecins qui vous contactent ?
Alors, pas forcément. Souvent, c'est le personnel de la structure, des éducateurs, des animateurs, des cadres de santé qui ont entendu parler de nous et qui aimeraient qu'on propose des ateliers aux résidents de leur structure.
Comment se déroule une séance entre les animaux et le public ? Et combien de temps cela dure ?
Alors, avant de pouvoir proposer une séance, il va y avoir un entretien préalable avec l'entourage, soit institutionnel, soit familial de la personne à accompagner. Lors de cet entretien, on va réfléchir au déroulé de la séance, on va définir des objectifs, on va voir comment on travaille, avec quels animaux, dans quel cadre on les met en relation, est-ce que c'est à la ferme, est-ce que c'est dans la structure. On va voir toutes ces modalités-là. Et au moment de la séance, donc la séance va durer à peu près une heure, pendant la séance, on va avoir différentes phases, différents temps. On va d'abord avoir un temps d'accueil où on va questionner la personne sur comment elle se sent et où on va l'informer de ce qui va se passer pendant l'heure qu'on va passer ensemble. Ensuite, on va avoir un temps où on est vraiment avec l'animal, donc un temps où on va faire des activités associant l'animal. Ça peut être du brossage, du nourrissage, ça peut être des parcours, de la balade, des moments câlins tout simplement, ça fait du bien aussi. Et puis, une fois qu'on a passé un bon moment avec les animaux, qu'on a pu travailler tout ce qu'on avait à travailler, on va dire au revoir, on va se désengager de la relation, on va ramener l'animal dans son espace, et puis on va avoir une phase qu'on appelle d'ancrage, où on va passer un temps qui va nous permettre de revenir sur ce qu'on a vécu de positif pendant la séance, pour repartir vraiment avec quelque chose qui nous aura fait du bien, et qu'on s'en souvienne sur le quotidien, que ce soit pas juste ce moment-là, mais que ce soit quelque chose qui puisse s'inscrire sur la durée.
Est-ce que ça permet de dépasser ses peurs ?
Ça peut nous permettre de dépasser ces peurs quand il y en a. À ce moment-là, ça va être un travail spécifique qu'on va faire, puisqu'il n'est pas question de venir amener un animal tout à coup face à quelqu'un qui a peur, mais on va faire un travail d'habituation, de préparation, avec une présentation progressive. Mais c'est un des axes de travail qu'on peut avoir en médiation.
Alors, au niveau du public, est-ce qu'il y a une amélioration des personnes qui profitent de cette médiation? Est-ce que les personnes, par exemple, s'ouvrent davantage?
Alors, oui.
Oui, j'en doute.
Effectivement, puisque c'est un de nos moteurs, de voir les évolutions et le bien-être que ça apporte aux gens. On va avoir une grande diversité d'objectifs qu'on peut travailler en médiation. On va pouvoir travailler sur de la motricité, qu'elle soit fine ou globale. On va pouvoir travailler sur l'estime de soi. On peut travailler sur l'autonomie. Enfin, le champ d'application est très large. Et en fonction de ce qu'on travaille et de la personne et du rythme auquel elle va, on va pouvoir constater des améliorations. Alors, des fois, c'est des toutes petites choses qui font du bien. Un petit sourire sur quelqu'un qui ne souriait plus depuis longtemps. Et puis des fois, on a des gros progrès avec des personnes qui, par le biais de l'animal, vont réussir à reprendre une grande confiance en eux et vont se dépasser un petit peu en ayant comme facilitateur l'animal pour le faire.
Au cas par cas, quoi.
C'est ça.
Comment organisez-vous le transport des animaux? Est-ce que vous êtes équipement certifié?
Alors, quand on a besoin de transporter des animaux, on va avoir du matériel adapté aux espèces qu'on transporte. Quand on va travailler avec des petits animaux, comme les cochons d'Inde, les lapins, les chinchillas, on va avoir des caisses, vous savez, ces caisses de transport pour chats, qu'on va aménager avec un tapis confortable et on va les monter sur un chariot qu'on peut déplacer facilement, puisque le but, c'est pas de nous blesser, nous aussi. Donc, le principe, c'est qu'ils soient bien au moment du transport pour que ce soit pas une source de stress. Pour les plus gros animaux, comme les équidés, on va avoir ce qu'on appelle un van, qui est une remorque adaptée et spécifiquement conçue pour transporter ces animaux-là. De la même manière, on va pouvoir s'en servir pour les chèvres et les moutons, mais on les déplace beaucoup moins. Voilà.
Organisez-vous des visites de votre association et est-ce que c'est payant ?
Alors, toutes les rencontres qu'on peut faire à la ferme se font uniquement sur rendez-vous. Il n'y a pas de visites qui peuvent se faire comme ça. Il y a forcément un intervenant avec vous sur une séance qui va être préparée, qui va être travaillée. Pendant les vacances scolaires, on organise des ateliers et des stages pour les enfants qui vont vraiment être à visée récréative, pédagogique. Et donc là, effectivement, c'est, on va dire, le grand public qui peut venir participer à ces ateliers-là. Et ensuite, sur demande, on peut organiser des ateliers spécifiques qui répondent à un besoin qu'on nous emmène. Et à ce moment-là, effectivement, c'est payant puisque le problème, si je peux le dire comme ça, c'est que de travailler avec des animaux, ils ont besoin de manger, il y a des frais.
Comme nous.
Et, voilà. Et on a beau prendre beaucoup de plaisir à faire tout ce qu'on fait, on est obligé de le faire payer, on essaie rester dans des tarifs raisonnables, mais pour continuer à subvenir aux besoins des animaux et à ce que l'association puisse perdurer.
Oui. Oussine, avez-vous une dernière question? Oussine?
Pouvez-vous nous donner vos coordonnées pour vous contacter? Avez-vous des sites et des vôtres? Vous êtes sur le réseau?
Alors effectivement, on a un site internet qui présente un petit peu toutes nos activités, tout ce qu'on peut faire. Donc ça va être www.asso-amaya.com. Et puis, on met notre actualité régulièrement en ligne sur Facebook, sur la page qui s'appelle Amaya-Association de médiation par l'animal en Sud-Gironde.
Et quelle superficie vous couvrez par ici ?
Alors, nous, à la ferme, on a une structure qui fait plus d'une dizaine d'hectares et on se déplace dans un rayon, alors en général d'une trentaine de kilomètres, mais selon les demandes, quand il y a besoin, on peut se déplacer jusqu'à Bordeaux, donc on peut faire un rayon d'une cinquantaine de kilomètres plus occasionnellement.
Francis voudrait intervenir.
Oui, on arrive au terme de notre émission. Merci beaucoup de toutes vos réponses de qualité, comme dirait Philippe. Mais tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'association
Arc-en-Ciel. Oui.
Arc-en-Ciel. Alors, on va quand même leur demander ce qu'ils pensent de votre émission.
Oui.
Super, sympa, chouette. Nous sommes les invités de votre émission depuis quelques heures. Nous avons beaucoup appris et nous avons beaucoup encore à apprendre. On peut dire que le mélange des genres réussit toujours à la société. Et grâce à l'association Arc-en-Ciel Solidarité Radio. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci, vous êtes gentil. Merci. On apprécie. Et on va conclure justement avec Marina. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'émission et vous-même, vous avez des projets éventuellement?
Alors, nous, sur l'association, on a plus ou moins toujours des projets. Là, on voudrait notamment développer toute la partie accueil de loisirs pour pouvoir proposer des activités pédagogiques et sensibiliser à l'animal. Et puis on aimerait pouvoir commencer à créer de l'emploi avec le développement de l'association. Et puis votre émission, je la trouve très chouette. C'est un très beau projet que vous portez aussi.
Merci Marina. Pour conclure, au mois prochain.
Merci beaucoup.
Merci.
Et longue vie à cette association.
C'est gentil. Merci à vous de m'avoir invité.
Merci de votre invitation.
C'était un plaisir de vous avoir.
C'était partagé.
Voilà.